Wagon Livre, votre émission littéraire. Wagon Livre, un voyage au cœur de l'actualité littéraire, présenté par Yannick Petit. Wagon Livre, c'est tous les samedis de 11h à midi sur Radion.
Heures passées de quelques secondes sur Radion, voici Wagon Livre, votre émission littéraire, dernier numéro de cette année 2022, et nous le terminons avec une romancière, jeune romancière, lauréate en cette année 2022 du prix de Flore pour son deuxième roman qui a pour titre Chienne et Louve, et c'est Geoffrine Donadieu que je suis heureux d'accueillir devant notre micro pour cette dernière émission. Bonjour Geoffrine Donadieu.
Bonjour.
Alors Chienne et Louve, donc, c'est votre deuxième roman paru aux éditions Gallimard qui a été récompensé par le prix de Flore. Je rappelle que c'est un prix qui a été créé en 1994. C'est un bon chèque apparemment. D'après les informations, c'est un peu plus de 6000 euros.
Écoutez, c'est précisément 6150 euros. À l'époque, c'était 50 000 francs quand il fut créé. Et en plus...
Et vous avez un petit privilège à l'année.
Mais oui, j'ai un verre de Pouilly par jour dans un verre gravé à mon nom.
Et au Café de Flore, bien sûr, qui est un haut lieu, j'allais dire, de l'histoire germano-pratine. Alors vous succédez à Vincent Ravalec, Michel Houellebecq, Philippe Janada, Virginie Despentes, Christine Ong, j'en oublie, Amélie Nothomb. Et l'an dernier, c'était Abel Quentin pour un roman intitulé « Le voyant des tempes ». Et le prix de Flore 2022 vous revient pour « Chienne et Louve ». Alors, Geoffrine Donadieu, bien évidemment, j'ai lu votre roman, je vous découvre aussi. Je n'ai pas lu votre premier roman. Votre premier roman s'intitule « Une histoire de France ». Alors, ce n'est pas un ouvrage d'histoire.
Non, pas du tout.
C'est l'histoire d'une femme qui se prénomme France. Et on retrouve dans ce premier roman la jeune fille qui est au cœur de Chienne et Louve.
Oui.
Si je puis me permettre... Geoffrine Donadieu, est-ce que vous pouvez nous glisser quelques petites informations biographiques? Parce que la quatrième de couverture du deuxième roman chez Gallimard ne nous dit pas grand-chose. Or, vous n'êtes pas que romancière, me semble-t-il.
Non, pendant très longtemps, j'ai mis en place et animé des ateliers d'expression, de théâtre dans les hôpitaux pédiatriques et psychiatriques, donc essentiellement les hôpitaux de Paris, mais tout s'est arrêté avec le confinement parce qu'il fallait limiter les contacts et que je n'ai pas pu redémarrer cette activité. Mais à côté de cela, j'ai aussi créé un jeu de société autour du théâtre pour l'enseigne Oxybule. J'ai créé une émission de télévision sur Piwi Plus autour du théâtre. Voilà, je crée des outils pédagogiques autour du théâtre.
Alors, est-ce qu'il y a des éléments communs entre Romy, votre jeune parisienne d'adoption qui arrive de Toul, donc de Meurthe-et-Moselle, département 54, qui arrive à Paris pour devenir comédienne en suivant le cours, prestigieux cours Florent. Est-ce qu'il y a ce point commun? Alors, Toul.
Oui, alors je suis née à Toul et j'ai fait le cours Florent à l'âge de 16 ans, Romy à 19 ans. Et j'avais vraiment envie d'écrire sur le théâtre et c'est un véritable défi pour moi parce que le théâtre, on lit une pièce de théâtre, on regarde une pièce de théâtre, on se rend au théâtre, mais arriver à retranscrire ce qu'une comédienne peut ressentir quand elle incarne un personnage dans un roman, c'était vraiment le pari de ce deuxième roman. Pour moi.
Et puis incarner un personnage, le corps, me semble-t-il, est très présent. Il y a plusieurs corps.
Oui.
Il y a les corps qui donnent du plaisir, il y a le corps vieillissant d'une vieille dame, on va en parler, et puis il y a le corps un peu trop maigre, d'ailleurs, de Romy, qui aspire peut-être aussi à développer ce corps et cet esprit, en tout cas en se réalisant. Sorte de Rastignac un peu du théâtre. Elle monte à Paris comme Rastignac, mais les ambitions sont autres. Pour elle, c'est devenir une grande comédienne. Elle ne cache pas cette rage de réussir.
Non, non, comme elle dit, elle veut sortir de l'arbre généalogique des perdants et elle vient à Paris pour devenir comédienne et elle part à la conquête de Paris. Elle aime Paris, elle aime ses rues, elle aime aussi sa cruauté, elle aime ses défauts, elle aime les gens qu'elle y rencontre. Elle se crée beaucoup, beaucoup de souvenirs à Paris et même quand elle a envie de partir, c'est impossible, la capitale la retient.
Faut dire que Paris, pour elle, c'est le lieu où elle peut et où elle doit réussir, parce qu'à un moment, on comprend bien qu'il y a une urgence, parce que les squats à droite à gauche chez des gens à la moralité parfois un peu douteuse quand même. Elle sait qu'elle prend des risques, elle a mis parfois les pieds dans des paradis artificiels, alcool, drogue. Donc réussir, c'est aussi contrecarrer la vie cabossée d'où elle vient.
Oui, c'est une véritable revanche. Autant dans le premier roman, elle était dans la survie. Le deuxième roman, elle est dans la vie. Elle croque la vie, elle la mord et elle y va. Elle compte être comédienne et coûte que coûte.
Alors, elle a un point commun avec vous, c'est qu'elle est née dans les années 90, si je ne m'abuse. Et vous écrivez dans le roman, comme tous les gosses des années 90, donc là c'est Romy, votre jeune femme de 19-20 ans, qui dit « J'ai été élevée à la malbouffe, au porno et à la découverte des réseaux sociaux. » Heureusement, vous n'avez pas fait que cela.
Non, heureusement, je n'ai pas fait que cela. Déjà, ma mère veillait à ce que nous mangions des légumes verts. Ce n'était pas vraiment la malbouffe. Qu'elle faisait vraiment très attention aussi à ce que nous regardions sur Internet, mon frère et moi. Mais évidemment, cette génération des gosses des années 90 connaissent vraiment l'apparition d'Internet, les tout débuts avec ce fameux bruit que faisait Internet dans toute la maison quand on allumait, qu'on essayait de se connecter. C'était assez étrange. Et je pense qu'il y a vraiment la génération qui est née avant Internet et celle qui est née avec Internet. Et il y a l'entre-deux, celle des années 90 qui connaît à la fois l'avant et l'après, qui doit faire avec. Et c'est pas toujours simple.
Votre héroïne, Romy, a une grande cassure. Finalement, la grande cassure, si on veut la découvrir plus en détail, il faut lire le premier roman Histoire de France.
Oui, alors on peut lire une Histoire de France pour connaître la cassure de Romy. Je peux très bien révéler la chose parce que je le dis dans le premier chapitre d'une Histoire de France, Romy a été abusée sexuellement par une femme. Et évidemment, tout cela va avoir un impact sur sa vie. Maintenant, le deuxième roman, Chienne et Louve, peut vraiment se lire indépendamment du premier. Et j'ai fait en sorte de mettre quelques éléments pour que le lecteur ne soit pas perdu, mais ne soit vraiment pas obligé de lire le premier.
Les habitants de de leur région vous en ont-ils voulu d'avoir, dans votre premier roman, évoqué Toul et ses sphères sociales sous des aspects parfois pas toujours nobles ou réconfortants?
Non, pas du tout. Déjà parce qu'il faut quand même placer l'histoire quelque part en France. Alors si on peut plus placer une seule histoire et inventer que des villes imaginaires, ce serait un petit peu étrange. Et puis je ne crois pas être méchante avec Toul. C'est une ville de garnison où en effet il n'y a qu'un centre commercial, qu'il y avait des usines, alors certes qui ferment. Il y avait cette base militaire. Même il y avait plusieurs bases militaires, donc je décris ce qu'est malgré tout l'Est de la France, qui bien sûr a énormément changé, évolué, mais dans les années 90-2000 c'était quand même ce que je décris dans une Histoire de France. Et le TGV, nous avons eu le TGV qu'en 2008, ça reste assez récent. Pour venir à Paris, nous mettions quand même 4h30-5h, ce n'était pas rien.
Chienne et Louve, votre deuxième roman. Alors là, on est vraiment dans le Paris. Le Paris donc de l'apprentissage du théâtre, le cours Florent, le Paris des quartiers populaires, le Paris nocturne, parce que Romy doit bien payer. C'est un peu l'angoisse, c'est payer chaque mois le cours Florent. Un petit rappel sur ce qu'est le cours Florent, parce que oui. On a l'impression que tout le monde sait ce que c'est, de grandes comédiennes et grands comédiens y sont passés.
Oui, comme Isabelle Adjani, Audrey Tautou, même des humoristes, Gad Elmaleh,
je crois.
Oui, ça a été une grande, grande école qui a eu ses heures de gloire. Alors, le cours Florence est une école de théâtre qui se fait sur 3 ans. Et il y a un réel apprentissage, que ce soit dans la comédie, la dramaturgie, mais il y a aussi des cours de chant, de claquettes, de mime. Il y a même plusieurs options. Et je crois que ça s'est beaucoup développé depuis, mais il y avait déjà beaucoup d'options à l'époque quand j'y étais.
C'est optionnel, mais il faut payer aussi toujours à côté.
Il faut toujours payer, évidemment.
Et en fin de compte, on voit bien que Romy, qui n'a pas l'appui financier des parents, ni l'appui culturel, contrairement à une de ses, on va dire, consoeurs, qu'elle jalouse quand même, qui est belle, qui vient d'un milieu qui a de l'argent. On voit bien que pour Romy, c'est vraiment une petite misérable qui débarque sur les trottoirs de Paris et qui rêve de monter sur les planches.
Oui, Romy, elle rêve de cela, mais pour elle, c'est vital d'être sur scène, parce qu'à travers les personnages, elle va se connaître. Alors oui, elle va envier Nora, qui est la fille parfaite, mais en plus, cette fameuse Nora joue très bien. Et Nora va malgré tout envier la liberté de Romy et son jeu, parce qu'elle va avoir un jeu un petit peu plus sauvage, mais elles vont être assez intelligentes pour apprécier le jeu de l'une et de l'autre, malgré leurs univers qui sont très différents.
Alors Romy, tout comme sa camarade de classe du cours, oui, Florent, ont différents professeurs de théâtre. Oui. Et par exemple, alors, il y a, c'est Rebecca, je crois, une de leurs
professeurs. Oui, Rebecca Barretta.
Elle existe réellement, ou c'est une pure invention?
Non, c'est une pure invention, mais je me suis bien amusée à faire ces 3 portraits de professeurs, parce que le livre donc est découpé en 3 parties. Chaque partie correspond à une année du cours Florent. Et donc, on va voir les méthodes de chaque professeur. Et ça m'intéressait de montrer les différentes pédagogies, quels étaient les exercices de chacun pour emmener les élèves d'un point A à un point B avec une nouvelle palette d'émotions, en fait.
Et des exercices parfois surprenants.
Parfois même humiliants.
À un moment, ça vous l'avez vécu, cet épisode où la professeure dit à Romy, bah, tiens, vas-y, fais le chien qui pisse.
Oui.
Et Romy ne se démonte pas.
Ah, Romy ne se démonte pas, et elle va même aller jusqu'au bout. Je pense sincèrement qu'il y a des moments parfois au théâtre qui peuvent être extrêmement humiliants. Et après, voilà, les élèves sont dans cette compagnie, dans cette troupe, comédiens ou même écrivains ou peintres. Voilà, ce ne sont pas des métiers, ce sont avant tout des passions. Et donc, on va fouiller des sentiments parfois violents, des sentiments à l'état brut. Mais on peut même voir, il y a un reportage que j'ai regardé là dernièrement sur Arte, je crois qu'il s'intitule Sous les Amandiers. Les Amandiers, le film qui est sorti dernièrement, où on peut voir quand même cette violence des cours de théâtre. Alors c'était dans les années 70-80, c'était à l'époque de Chéreau, ce qui est décrit, mais malgré tout, jusqu'il y a peu, on pouvait encore trouver certaines violences, manipulations, mais comme on trouverait dans n'importe quel cours artistique. Et c'est en train de changer avec la libération de la parole, mais il y a encore du travail.
Je cite un passage du roman, c'est un peu le credo de Romy. Je veux respirer sur scène, entendre les 3 coups chaque soir, commettre des crimes, des infanticides, des adultères, aimer éperdument, haïr follement, voyager à travers les époques, changer de sexe, m'empoisonner, mourir, renaître. Chère Geoffrine Donadieu, on marque une première petite virgule musicale à bord de notre émission et on vous retrouve juste après pour votre 2e roman disponible chez Gallimard et qui a obtenu le prix de Flore courant novembre, mois dernier.
Le 10 novembre, exactement.
Le 10 novembre. Nous revenons d'ici quelques minutes.
Merci.
Her hair is hollow gold.
Wagon Livre, votre émission littéraire.
Geoffrine Donadieu nous accompagne aujourd'hui dans Wagon Livre sur Radion pour son deuxième roman Chienne et Louve. Nous parlions apprentissage de théâtre parce que c'est grandement au cœur du roman. C'est aussi le développement personnel d'une jeune femme parce que le théâtre va sans doute lui permettre de se réaliser. Si elle échoue, on peut craindre le pire pour Romy.
Oui, oui, c'est monter sur scène ou mourir. C'est vraiment comme ça qu'elle voit la chose. Et le théâtre est très, très important. Elle va se découvrir à travers les personnages qu'elle va incarner. Les personnages vont lui révéler de nouvelles facettes de sa propre personnalité. Comme elle, elle va mettre en lumière la facette des personnages qu'elle va jouer.
Alors, il y a trois, je dirais, le roman est organisé en trois parties. Chaque partie, effectivement, renvoie à une étape de l'apprentissage de la formation théâtrale avec différents professeurs, mais aussi différentes rencontres dans la vie de Romy, puisque les rencontres aussi sculptent nos existences. Il n'y a pas que Romy qui est sculptée par les rencontres. Alors, la première année, elle doit épouser, entre guillemets, une jeune femme blanche qui est une des héroïnes d'une pièce de Tennessee Williams, oui. Alors que l'on connaît surtout parce qu'elle a été adaptée au cinéma par Elia Kazan, donc oui. C'est un tramway nommé Désir. Deuxième partie, donc c'est Mirandoline, alors c'est dans la Locandiera, c'est une pièce de Goldoni.
C'est ça.
Et puis on termine avec, alors moins connue peut-être, Sabina,
oui.
D'une
Parole
pièce...
Parole et guérison.
Parole et guérison.
Oui.
Donc de Christopher Hampton, et qui est une pièce sur l'invention de la psychanalyse.
C'est ça, c'est vraiment les tout débuts de la psychanalyse, lorsque Jung va avoir pour patiente Sabina Spielrein, qui est considérée comme hystérique, folle, et il va même y avoir une correspondance avec Freud, et c'est l'histoire de ce trio.
Alors, il y a aussi, me semble-t-il, toujours un peu planant, le fantôme d'Antonin Artaud.
Oui, 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 mais Antonin Artaud est un dramaturge, auteur que j'apprécie énormément parce que, alors moi ce que j'aime écrire c'est avant tout le point de bascule, le moment où le personnage peut oui ou non tomber dans la folie. Artaud est clairement passé de l'autre côté depuis un moment.
Geoffrine Donadieu, justement, vous parliez d'Antonin Artaud, alors Artaud est né en 1896, il est mort en 1948. C'est un poète et c'est surtout un grand théoricien du théâtre, alors qui a laissé une tradition de... Alors, il y a deux textes, il y a le théâtre et son double, ouais. Et puis le théâtre de la cruauté. Ouais. Et ce qui est intéressant aussi, c'est la notion de théâtre total. C'est-à-dire qu'en fin de compte, le théâtre peut... Alors, vous me corrigez, hein, Geoffrine, si je dis une sottise, ou alors vous apportez des nuances. Mais Artaud dit finalement que le théâtre ne repose pas que sur la parole et le langage.
Non, il représente surtout l'univers, le contexte, la salle, c'est englobant pour lui.
Alors, il y a justement, à partir du moment où Artaud considère qu'il n'y a pas que la parole au théâtre, ce qui est très intéressant, c'est que à un moment dans le roman, Romy dit que ses parents lui ont appris à parler le silence. Mmh. Et ça, c'est superbe.
Oui, parce que son père étant militaire, partant beaucoup en opération extérieure, quand il revient, il ne parle pas. Il garde bien sûr tous les secrets de l'armée pour lui. Quant à la mère qui est extrêmement malade, elle essaye de cacher sa maladie. Elle reste silencieuse pour ne pas montrer à Romy son mal-être. Et donc Romy, elle fait avec ça, elle décortique les silences. Et ça va beaucoup l'aider parce que au théâtre, les silences sont aussi importants que les mots. Et elle va même les repérer et leur donner un nom.
Et même dans une émission de radio, un moment de silence, c'est toujours magique.
Oui.
Restons encore sur les modèles fétiches de Romy. C'est marrant, elle a de l'admiration pour les comédiennes plutôt des années 60.
Oui.
Il n'y a pas tellement de figures contemporaines dans le roman.
Non.
Les noms, en tout cas, ne sont pas mentionnés.
Non, totalement, mais j'avais très envie que Romy, elle peut parfois se sentir très, très vieille, en fait. Parfois, c'est une vieille femme enfermée dans un corps de jeune, comme Odette peut être une vieille, se sentir très jeune alors qu'elle est très vieille. Et j'avais très envie de montrer ce miroir entre ces deux femmes. Alors, je répète, Odette, c'est la colocation, voilà. La colocataire de Romy.
Alors, on doit en parler de cette Odette, oui. Steiner, née Steiner ou Steiner?
Oui, j'ai Steiner, mais on peut dire Steiner. C'est vraiment comme vous voulez.
Et elle est née en 1921, mais en fin de compte, dans le roman, il y a un décalage de quelques années.
Avec
On n'est pas en 2022 au moment.
Ah non, nous ne sommes pas du tout en 2022, on est dans les années 2009-2010 à peu près.
C'est ça, oui. Puisque Odette a 89 ans. Donc c'est une vieille femme, alors une vieille fille,
oui.
Catholique pratiquante.
Oui,
enfin,
oui.
Ancienne assistante sociale, oui. Donc... elle écoute le journal de Radio Vatican, ouais. Elle regarde la chaîne KTO, elle est abonnée au Pèlerin et au quotidien La Croix. Et cette vieille femme est seule.
Oui.
Et elle est prête à, éventuellement, contre un loyer modique, oui. Une somme modique, à accueillir une jeune fille pour avoir un peu de compagnie.
Voilà, parce que Odette, il ne lui reste plus qu'une nièce, mais cette nièce est partie à l'étranger et Odette, qui va donc en effet sur ses 90 ans, n'a pas du tout envie de partir en maison de retraite parce que elle a toute sa tête, elle a juste des petits soucis d'équilibre, de tension. Enfin, ça reste une femme malgré tout en forme. Et puis elle se dit que elle pourrait héberger contre un loyer modeste, un petit peu de compagnie, une jeune femme qui la rassurerait les nuits à Pigalle, et donc elle va rencontrer Romy, et il se trouve que Odette vient également de l'est de la France, donc elle va accepter de loger Romy parce qu'elle reconnaît cette jeune fille qui vient de l'est, et entre gens de l'est, ce pays qui a connu la guerre, les femmes se soutiennent.
Et puis bien évidemment Odette ignore tout des activités nocturnes de Romy, parce qu'on n'en a pas beaucoup parlé.
Et
parce que pour aussi mettre un peu de beurre dans les épinards, Romy a des activités nocturnes.
Oui.
Et là, on peut dire qu'elle elle se transforme.
C'est ça.
C'est un autre théâtre, le théâtre de la nuit, ouais. Le théâtre des désirs, d'un public masculin enfin, ou féminin.
Je pense qu'il y a de tout.
Avec différents appétits, quoi.
En effet, pour payer ses cours de théâtre, Romy danse dans un club de striptease à Pigalle, le Poussise, où elle s'effeuille tous les soirs et se prostitue occasionnellement, il faut le dire. Alors évidemment, elle va cacher cette activité à Odette. Elle n'est pas idiote. Elle se doute que si Odette le savait, elle n'aurait peut-être pas de chambre. Et puis finalement, Odette, bah, elle n'est pas si idiote non plus. Elle s'en doute, mais elle aime bien avoir cette jeune femme chez elle qui lui apporte malgré tout de la vie. Donc elles vont jouer ce jeu, elles vont accepter d'être plus ou moins dans le déni l'une et l'autre et accepter les mensonges de l'une et de l'autre parce qu'elles ont besoin chacune soit de Romy, soit de Odette pour vivre.
Mais en fin de compte, Odette, elle organise aussi un peu le théâtre dans son appartement, ouais. Avec sa petite ménagerie fantastique, c'est-à-dire ouais. Des petits animaux en pattes de verre et de différentes couleurs. Donc il y a de tout, hein.
Y a de
un
tout.
Héron, un chacal, un buffle. Et puis il y a un animal qui compte plus que tous les autres.
Eh oui, en effet, Odette a une très belle collection qui est cette ménagerie qu'elle a depuis des années et sa passion c'est de lustrer ses animaux, les sortir, les ranger et parfois en ajouter de nouveaux parce qu'il, je peux le dire, chaque animal correspond à un mort qui a compté dans la vie de Odette. Et puis un jour, elle va passer un pacte avec Romy, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus de 9 ans et il n'y aura plus de 90 ans et plus de 20 ans qui tiennent sous ce toit, mais elles vont jouer comme des fillettes de 9 ans. Et ce soir-là, Odette va attribuer à Romy un animal, la louve, et elle va avoir la jument. Et Odette et Romy vont parler avec la louve et la jument.
Et en fait, à ce moment-là, on est entre fantaisie et démence quand même chez Odette.
Oui.
Chez Romy.
Chez Romy aussi, je crois. Mais on est avant tout avec deux fillettes de 9 ans qui ont un point commun, c'est celui d'avoir connu la guerre. Une, la Seconde Guerre mondiale, et l'autre a été victime d'abus. Donc c'est une forme de guerre. Et comme on leur a volé leur enfance, elles vont jouer comme des fillettes. Et donc elles vont partir dans des délires, dans des jeux. Et des fillettes, ou même des garçons, quand ils jouent, c'est avec une vérité, leur vérité. Et cela peut comporter de la méchanceté, de la violence, de la jalousie, de la trahison. Il y a un côté je te tiens, tu me tiens par la barbichette, je te jette, je te prends, je te déteste, je t'aime. Et t'es ma meilleure amie, t'es plus ma meilleure amie en une fraction de seconde.
Mais ce qui est surprenant entre ces deux femmes qui ont
70 ans d'écart,
70 ans d'écart
ouais.
C'est qu'il n'y a pas vraiment de dialogue.
Non. Elles ont...
Il y a une sorte de. C'est délicat d'en parler, en fait, parce qu'il faut le découvrir. Ça surprend énormément. Ce qui est surprenant aussi, c'est l'appartement
oui.
de d'Odette, qui est une sorte de caverne d'Ali Baba, si on veut bien être curieux.
Oui, l'appartement d'Odette est une caverne d'Ali Baba, mais parce que c'est un appartement fait de souvenirs. Mais comme tous les appartements, ou même les maisons des personnes de 90 ans, c'est... 90 ans, c'est une vie. Donc évidemment, Romy va découvrir de nombreux objets. Cet appartement qui est décoré de croix, de buis, de mosaïques, parce qu'elle
le
a fait partie...
Le portrait de pape.
Bah oui, voilà. Mais Odette avait quand même une vie sociale très riche. Elle faisait partie d'une chorale. Elle adorait... faire de l'équitation, elle adorait aussi faire du tennis, elle rejoignait tous les samedis, elle avait un club de mosaïque. Donc évidemment, c'est une véritable caverne et c'est un univers.
Mais alors, on suppose, et j'en suis presque certain, que Odette est une vraie demoiselle.
Ah bah oui. Odette est une vraie demoiselle. Mais aussi, cela s'explique parce que elle a quitté Chaumont, tous les hommes étaient partis à la guerre, il fallait se marier avec le voisin du coin, mais si le voisin du coin était là c'est pas, et qu'il n'était pas parti à la guerre, c'est qu'il avait peut-être un problème. Donc, le moyen de s'en sortir aussi pour Odette, c'était d'être à Paris, d'être assistante sociale. Et les assistantes sociales, à l'époque, elles étaient considérées comme des bonnes sœurs. C'était des vraies mères et toute leur vie était vouée aux autres, en fait.
En tout cas, Romy pense que le fait que Odette a été assistante sociale, c'est plutôt une chose positive pour elle, parce que ça veut dire qu'Odette est capable de comprendre des situations de vie étranges, cabossées ou peu académiques.
Oui, parce que Odette, malgré tout, elle est originale. Et puis, j'ai voulu en faire une femme extrêmement libre parce que elle ne s'est pas mariée. Elle a quand même un petit peu voyagé. Je la vois vraiment comme une baroudeuse. Et à l'époque, il fallait avoir du cran. Et je pense que Odette a voulu garder sa liberté et que Romy peut voir ça en elle, comme Odette voit la liberté en Romy. Elles sont en miroir tout le temps et parfois même en fusion.
Alors certes, Odette, cette vieille dame de 89 ans, qui refuse d'ailleurs cet âge,
oui,
qui veut absolument redevenir une fillette de 9 ans.
Oui.
Alors effectivement, Romy se mettra à ce niveau, c'est ce fameux pacte, mais il ne faut peut-être pas trop en dire non plus. Mais cette vieille femme qui refuse, et c'est amusant aussi parce qu'on peut voir le roman comme une Romy qui a envie de devenir une femme et une vieille femme qui a envie de redevenir une enfant, c'est-à-dire des chassés croisés au niveau de l'âge.
Oui, oui, oui. Non,
et
mais
c'est aussi la tristesse du corps qui vieillit, parce que le corps, c'est essentiel pour une comédienne et un comédien. Et pour Odette, il y a le corps, puis il y a l'esprit qui, tout d'un coup, un petit peu, commence à montrer des signes de dépression, de déprime. Et il faut...
Oui.
Il faut qu'Odette vive.
Totalement.
Parce que Romy, c'est ça qui est extraordinaire, je trouve, dans ce roman, c'est que cette vieille femme, quand bien même elle utilise le jeu, quelques artifices, des câlineries, elle tient quelque part un peu Romy dans ses mains.
Oui, 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 elle la tient, mais elles ont vraiment besoin l'une de l'autre. Hein. Romy est là pour ne pas que Odette parte en maison de retraite, et Odette est là pour Romy pour ne pas qu'elle se retrouve à nouveau sur le trottoir. Mais c'est vraiment l'histoire de ces deux corps en miroir qui lâchent, pour différentes raisons, mais des corps qui lâchent, l'une parce qu'elle devient âgée, et que donc le corps, évidemment, est imprégné par toutes ces années, et l'autre, son corps lâche parce qu'il y a eu trop d'abus, que ce soit sexe, drogue, alcool, mais ils sont en véritable miroir, et d'ailleurs, on voit ces deux personnages qui passent leur temps à laver les petites culottes, les pantalons, parce qu'elles ne maîtrisent pas tous ces flux. Elles passent leur temps à tomber parce que l'une ne sait pas marcher avec des talons aiguilles et l'autre ne tient plus l'équilibre ou ne sait pas marcher avec un déambulateur. Donc, elles passent leur temps à se ramasser littéralement l'une et l'autre. Et je crois que j'avais envie de mettre en miroir ces deux corps qui, malgré 70 ans d'écart, se ressemblent beaucoup.
Et puis, il y a ce défaut chez Odette, c'est de tout laisser cramer.
Ah oui.
Le steak haché dans la poêle. Elle oublie beaucoup d'éteindre le gaz. Elle brûle beaucoup de choses. Et Romy, elle brûle d'une autre manière, elle. Alors,
ouais,
elle aimerait peut-être brûler sur les planches ou brûler les planches, mais elle se consume aussi de manière parfois un peu dangereuse. Elle prend des risques.
Oui, 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 elle prend des risques considérables, mais c'est toujours dans ce but de réussir, de monter sur scène, d'être comédienne. Et être comédienne, c'est risqué, ça a un prix.
C'est très amusant puisque Romy va tout de même, alors que Odette est encore en bonne forme, elle va accompagner Odette à la messe,
oui,
à Notre-Dame de Lorette.
Notre-Dame de Lorette.
Et Romy dit, en regardant les personnes qui assistent à la messe, « Je regarde les pauvres pécheurs, ils ont tous une tête de client, c'est-à-dire client du poussis, oui, la boîte de nuit. » petites, on égratigne un petit peu aussi comme ça. Alors les hommes qui finalement qui viennent dans ces, alors vous, elle le dit, Romy, ouais. c'est des puceaux, c'est des détraqués, ce sont des personnes, bon, des hommes un peu âgés. C'est une, l'humanité dans sa diversité et dans ses attentes.
C'est ça, mais comme l'humanité, on va la retrouver un peu partout, y compris à Notre-Dame de Lorette. Et ce que Romy montre, c'est que parfois, on peut se montrer donner une certaine image, et puis le lendemain, on peut en donner une autre. Mais elle éprouve malgré tout beaucoup d'amour pour toute cette personne, pour tous ces portraits un petit peu fracassés par la vie.
D'ailleurs, elle est obsédée par l'addiction et le jeu, puisque alors qu'elle est à la messe, Romy parle du père Dominique qui officie. Le père Dominique articule de façon exagérée. J'ai l'impression qu'il fait un exercice de diction. Or, Geoffrine, justement, je voulais vous interpeller là-dessus, parce que parfois il m'arrive d'écouter en podcast certaines messes sur France Culture, pour ne pas la nommer, et je trouve que parfois on y entend un français bien articulé.
Oui.
Trop à votre goût ?
Non, pas du tout, au contraire.
Parce que où parle-t-on encore un bon français articulé ? À la télévision, c'est pas toujours évident.
Non, je suis entièrement d'accord avec vous, mais je trouve que dans les messes, c'est particulièrement bien articulé. Et Romy le souligne, elle ne se moque pas du tout, mais parce qu'elle est en plein aussi dans ses cours de théâtre où la diction est vraiment quelque chose d'important. Donc elle le relève, elle s'en amuse, mais voilà, tout est jeu pour elle.
Mais de toute façon, effectivement, une messe, que ce soit un mariage, des obsèques, c'est très ritualisé. Il y a quelque chose qui relève un peu d'une mise en scène de la parole divine, en fait.
Totalement, et ça, elle va le relever, parce que malgré tout, elle le dit, elle aime les églises. Elle aime les églises parce qu'il y a du silence, parce que c'est reposant. Après, qu'elle soit croyante ou pas croyante, ce n'est pas du tout ce que je voulais dire, c'est que c'est un endroit où elle se sent en sécurité et en toute tranquillité pour pouvoir même relire ses pièces de théâtre, réfléchir, méditer. Et elle va sans cesse aller aussi à la fois à Notre-Dame de Lorette, mais aussi au Sacré-Cœur.
Et sur le toit du garage
également, mais elle a même vu quand même sur le Sacré-Cœur. Et donc, Dieu est quand même malgré tout très présent, et elle ne s'avoue peut-être pas à elle-même si elle y croit, si elle ne croit pas, mais il y a quelque chose au-dessus d'elle.
En tout cas, Odette se laisse séduire aussi par les interprétations des héroïnes par Romy, puisque parfois elle lui dit « vas-y, joue ». Et en fait, c'est très amusant, elle lui demande de changer de personnage, comme si elle avait une zapette, une télécommande dans la main. Et Romy dit « Je suis devenue sa télévision ».
Oui. Alors, Romy va apporter beaucoup de vie à Odette et ça va être extrêmement ludique. Odette va prendre toute l'énergie de cette jeune femme et elle va à nouveau pétiller, en fait, et s'amuser. Et ça faisait bien longtemps qu'Odette ne s'était pas amusée.
Geoffrine Donadieu nous accompagne. Je rappelle le titre de son dernier roman qui a été couronné par le prix de Flore le 10 novembre dernier. Ce roman est disponible en librairie aux éditions Gallimard et il a pour titre « Chienne et louve ». On marque une nouvelle petite virgule musicale et nous nous retrouvons juste après avec notre invité.
Welcome to the clubhouse, everybody. This is the Tom Club. Yeah.
Fun. your body, why me do the honor, oh my love, I feel the young, we do it the infinite. If you do it with my own, my you feel love of money, I'm not talking to you, listen to me. And we be rocking in time, and I can see the sign, we'll be coming in a state of mind. There gonna be a lot of rocking, while they're reading me the tracking, for the people, they might get in a degree. You rock your body, why me do the honor, oh my love, I feel the young, we do it the infinite.
Wagon Livre, votre émission littéraire.
Jofrine Donadieu, il n'y a plus beaucoup de théâtre à la télévision.
Non, et je le regrette.
Ça a disparu.
Ouais. Non, ça a vraiment disparu. Alors parfois, heureusement, sur France Culture, on peut entendre des pièces de théâtre, mais ce n'est pas pareil. Et moi, je me souviens que petite, ça me... j'étais enjouée à l'idée de regarder une pièce de théâtre par des grands comédiens sur des scènes parisiennes et c'est vrai que ça ne se fait plus, mais voilà, j'ai encore cette nostalgie des fêtes de fin d'année, où, parce que souvent ces pièces étaient aussi diffusées lors des fins d'année, et ce serait formidable si nous remettions ça en place.
Sans transition, étant donné aussi quelque part que Romy fait l'apprentissage du désir, enfin, parfois il est forcé parce que
oui.
Elle fait des passes avec des hommes, c'est tout de même pour gagner de l'argent,
oui.
Et payer le cours Florent. Alors après les choses s'inversent, c'est Odette qui va financer, mais
oui.
On n'en dit pas plus. Mais il y a un petit passage qui m'a énormément plu. Je me permets de le lire, Jofrine Donadieu. C'est vous qui l'avez écrit. Romy a rencontré un homme. Hein,
oui.
Et elle dit, je sens son désir. Mais je sens, c'est
oui.
Olfactif, hein, je le dis
oui,
pour
oui.
nos auditrices et auditeurs. Il faut prendre le verbe sentir au sens.
C'est ça. Enfin, tout, il y a un côté très, très animal de toute façon. Les personnages se reniflent, donc il y aura beaucoup le verbe sentir.
Je sens son désir, un mélange de mousse humide et de bois brûlé. Tous les désirs n'ont pas la même odeur. Chez certains, j'ai humé l'orage et la roche, encore brûlante d'une journée étouffante. Chez d'autres, les algues et la décomposition. Chez d'autres encore, les champs de maïs et la terre battue. Et pour certains, le chien mouillé. Ça m'a... J'ai beaucoup aimé ce qu'on appellerait un petit peu... en relation avec la poésie baudelairienne, c'est des synesthésies, le désir associé à une odeur.
Oui.
J'ai trouvé ça très, très fin, très subtil. Ça m'a beaucoup interpellé.
Merci beaucoup. Oui, il me semble que le désir a une odeur, mais comme le silence aussi, on en parlait tout à l'heure, a plusieurs significations. Il me semble que voilà, tout n'est pas noir, tout n'est pas blanc, et j'ai passé mon temps à travailler cela dans ce texte, à apporter différentes nuances, mais pour tout.
Et d'ailleurs, sur les silences, vous en listez toute une catégorie. Jofrine, j'ai presque envie de vous demander de nous en lire un petit silence poudré. Peut-être pas tout, mais au moins aussi pour qu'on retrouve cette subtilité. Parce que il y a effectivement quelque chose de l'ordre un petit peu... Alors très féminin, très fort, très sauvage, très animal, certaines scènes. Des scènes de complicité avec Odette, des scènes de jeu qui vacille, me semble-t-il, entre, oui, démence et pouvoir et complicité. Et puis, il y a aussi des passages qui renvoient à la sensualité, mais aussi à une écriture que je trouve, que je la ressens ainsi, poétique et extrêmement ciselée. Et je voudrais, par rapport à cette, ce listing de silence, que vous nous en lisiez quelques-uns, s'il vous plaît, Geoffrey.
Oui, voilà, Romy a un petit carnet où elle collectionne les silences, elle essaye de leur donner des noms. Alors elle a relevé le silence poudré, il enveloppe son partenaire de douceur, il berce les non-dits, les incompréhensions. Le silence flottant, il questionne, il sonde, il cherche à comprendre, il tord les boyaux à la limite du supportable. Le silence miroir, il reflète les âmes, les pensées, tout devient clair, il joue le rôle du révélateur. Le silence bascule, il permet la transformation, la prise de décision, apporte un changement radical. Et puis il y a le silence amer, il laisse un goût âpre sur la langue, celui des mots expulsés, qui ne se digèrent pas. Le silence d'adieu, il tombe comme les pétales d'une rose sans faire de bruit, il est cette boule dans la gorge.
Merci Geoffrine. Alors, Romy est encore très jeune, elle rencontre différents hommes. Là aussi, parfois, la description des rapports charnels et physiques sont assez... Les descriptions sont franches.
Oui.
Et je me disais, il faut que je demande à Geoffrine Donadieu, est-ce qu'on ne pourrait pas se passer de certaines descriptions un peu crues du sexe dans les romans? Parce qu'on a le sentiment que, et je l'ai remarqué, on parle, pardonnez-moi le langage, on parle de bites, de chattes. Est-ce qu'on pourrait pas... Ne pourrait-on pas faire l'économie parfois de ce vocabulaire, alors que effectivement, on l'a bien entendu, il y a
des moments plus poétiques.
Bien sûr.
Oui, j'avais vraiment envie de mettre tout cela dans ce roman. Après, Romy, quand elle se prostitue, certes c'est cru, mais elle est entièrement d'accord avec ça. C'est un moyen comme un autre de gagner sa vie, donc de payer le cours Florent. Parfois c'est brutal, mais il fallait vraiment, par des phrases courtes, montrer l'acte en lui-même, qui n'est pas forcément très joli, mais en même temps elle est d'accord pour pouvoir avoir l'argent. Et puis il va y avoir des scènes d'amour, et c'est là que ces scènes un peu plus crues viennent mettre un peu plus de couleur et de gaieté avec les scènes d'amour avec Jean, qui est un personnage qui va la révéler en tant que femme, parce qu'elle a beau avoir de nombreux partenaires, il y a quand même un homme qui va la rendre femme et qui va la regarder
différemment. Et c'est un homme de la maturité.
Oui, c'est un homme qui est plus âgé qu'elle, mais qui ne va pas la payer pour coucher avec... Il va l'emmener à la Comédie Française. Ah oui. C'est grâce à lui qu'elle va découvrir tout un monde culturel auquel elle n'avait pas du tout accès. Mais il va aussi révéler chez elle une féminité qu'elle ne connaissait pas.
Dites-nous, Geoffrine, est-ce que comme Romy a vécu avec ses différents personnages de théâtre dont elle doit... se glisser dans les rôles, à savoir Blanche, donc d'un tramway nommé Désir, Mirandoline dans la Locandiera ou Sabina. Est-ce que vous, pendant le temps de l'écriture de ce roman Chienne et Louve, est-ce que vous avez vécu avec Romy et avec Odette?
Oh là là, si vous saviez, mais j'ai vécu au moins 3 ans, voire 4 ans avec elle, mais c'est-à-dire au réveil, au coucher, enfin elle m'accompagnait tout le temps, et puis je voulais vraiment bien les cerner, donc mes journées elles étaient découpées de la sorte. Le matin j'avais rendez-vous dans des maisons de retraite pour rencontrer des gériatres, pour bien comprendre le vieillissement. J'ai rencontré des personnes âgées aussi pour un petit peu parler de leur quotidien. J'ai appris à marcher avec je sais pas combien de déambulateurs, parce que il y a quand même plusieurs sortes, 3 roues, 4 roues avec pochette, siège rétractable.
Il y a des Rolls
déambulateurs, en effet, je le dis, je pense que je suis devenue la pro des déambulateurs. J'ai même marché avec des couches, parce que marcher avec une couche et un déambulateur, c'est encore quelque chose. Et je troquais couche et déambulateur en début d'après-midi pour rencontrer les filles du Crazy Horse avec lesquelles je prenais des cours de danse parce que il fallait que j'apprenne à marcher avec des talons aiguilles, des plateformes, que je sois que je comprenne un petit peu tous ces jeux de regard, ces déhanchés. Et puis le soir, j'arpentais les trottoirs de Pigalle et j'allais dans les clubs de striptease parce qu'évidemment Romy travaille dans un club minable et n'est pas une danseuse du Crazy Horse. Donc j'essayais des costumes, j'enfilais une perruque. Donc voilà, le matin j'étais Odette, l'après-midi j'étais Romy et je me déguisais bien sûr cachée, mais j'utilise beaucoup les outils du comédien pour écrire. Je ne monte pas sur scène, mais je vais écrire les sensations.
En tout cas, vous mettez des masques, mais vous les enlevez aussi parfois. Ah, oui. Et question peut-être un petit peu difficile, voire saugrenue. Si vous aviez un point commun avec Odette, donc la dame très âgée, oui, et Romy, votre jeune héroïne, quel serait-il ? Quel serait le point commun que vous pourriez avoir, oui, dans votre réalité avec Odette et avec Romy ? C'est-à-dire sur quel point vous ressemble-t-elle, mais sur un élément, je ne sais pas moi.
Oui. Non, mais toutes les trois, je crois que nous aimons jouer. Et je crois qu'il faut toujours garder en soi l'enfant qu'on a été, pour toujours avoir une certaine forme de curiosité, d'insouciance, voire même d'innocence, pour toujours être dans la découverte et dans la joie de la découverte.
Donc vous reprenez en fait ce que dit Romy, je joue pour découvrir un peu de moi dans chacun de mes personnages.
Eh bien oui.
Geoffrine Donadieu, je vous remercie d'avoir été la dernière invitée du Wagon Livre de l'année 2022. Je rappelle et je confie à nos auditrices et auditeurs le titre de votre dernier roman, Chienne et loup, c'est aux éditions Gallimard, et sous la plume donc de Geoffrine Donadieu, que j'ai eu plaisir à rencontrer et à faire parler pour l'émission littéraire de Radio. Très belle fin d'année à vous, Geoffrine Donadieu, et merci pour cet échange.
Mais merci à vous, très belle fin d'année également.
Et je salue, et bien évidemment, je souhaite une excellente fin d'année à tous les auditeurs de Wagon Livre, et je leur donne rendez-vous, bien sûr, le premier samedi de janvier 2023 pour continuer la série de ces émissions littéraires. Excellent congé de fin de semaine à toutes et à tous. Au revoir et à l'année prochaine.
À l'année prochaine.